La libre antenne d'Europe 1.
Et c'est Michel que j'accueille maintenant. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir Sabine. Bien écoutez, merci de me prendre à l'antenne. J'expliquais à votre collègue Maxime que j'étais déjà passée à l'antenne il y a environ un an et demi avec Olivier.
Oui.
Suite à la suite du décès de ma maman, bon, ça avait été très compliqué. Et là, aujourd'hui, je viens de passer une très, très, très mauvaise journée.
Ah. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'ai trois enfants très rapprochés, 43, 44 et 45 ans. Donc, c'est des enfants, ils ne sont pas petits, mais ils sont grands, mais c'est quand même des mes enfants.
Oui, ça, de manière générale, ça reste toute la vie, hein.
Voilà, exactement. Et je m'aperçois au fil de toutes ces conversations que j'ai avec eux, que nous avons une famille tellement bancale. Et comme je disais à Maxime, bancale, ça veut dire au moins 3 pieds sur 4 de chaise. Et là, on n'a même plus 2 pieds sur 4, quoi. Parce que, si vous voulez, ils ont énormément de choses à me reprocher. Et aussi à leur père, qui est disparu il y a 2 ans et demi. D'ailleurs, qui est décédé. Mmh. Et j'arrive pas à croire qu'une famille qui, au départ, pouvait avoir tout de bon, hein, un homme, une femme, qui font 3 enfants, parce qu'ils voulaient vraiment 3 ans. Et puis, petit à petit, que tout se dérègle dans cette vie, quoi.
Vous voulez vraiment aussi rapprocher vos enfants à l'époque?
Oui, on les voulait rapprocher parce que j'avais été un petit peu soignée parce que j'arrivais pas à en avoir. Mmh. Donc, la première naissance a été une grossesse extra-utérine. Enfin, c'était pas une naissance, donc j'ai perdu l'enfant.
Oui.
Et le docteur en question m'avait dit, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je viens d'accoucher une dame de son 3e enfant et qui a fait la même chose que vous. Et vous voyez, ça va venir.
Ah bah, il vous a programmé inconsciemment pour faire pareil.
Voilà. Il m'a dit, soyez patiente, ça va peut-être prendre 3 ans avant de se décanter, et voilà. Ok, bon, j'étais bien triste, vous pouvez imaginer. On était bien tristes, mon mari et moi. Et de là-dessus, cette grossesse extra-utérine a eu lieu en février, il y a des années. Et nous sommes partis, nous habitions Paris, nous sommes partis voir les fleurs, je crois que c'est au Danemark, hein, les Kubelhof, ou en Hollande, les tulipes, les fameuses tulipes là. Mm-hmm. Et c'était, donc les tulipes, c'était au mois de février, mars, avril-mai, par là. Et là, nous avons conçu notre premier enfant, en pensant, bien sûr, ne pas concevoir, puisqu'il avait dit minimum 3 ans.
Mm-hmm.
Et notre fille est née fin décembre suivant. Donc, vous voyez, tout ça a été très, très vite.
Dans l'élan, vous êtes restée sur le même...
Et dans l'élan, on est restée là-dessus, parce que mon mari disait, avant 30 ans, je voudrais bien avoir ma famille, mm-hmm, et je voudrais 3 enfants. Et il avait 30 ans et 3 mois quand le dernier est né, quoi, voilà.
Donc, c'était du bonheur, tout ça.
C'était du bonheur. Tout au moins, on le pensait. Pendant des années, ça a été du bonheur.
Oui.
Et puis... Il y avait une très bonne situation, tout allait bien, j'ai élevé les enfants, etc., etc. Jusqu'au jour où de Paris, nous sommes partis à Strasbourg pour une meilleure situation encore. Un chasseur de tête l'avait contacté. Et donc, nous nous sommes installés. Après 20 ans à Paris, nous avons fait 20 ans à Strasbourg.
Mais les enfants étaient déjà grands, là, 20 ans, alors?
Alors, oui, les enfants avaient donc 8, 10, 12 à peu près. Non, un peu moins, puisque la grande n'était pas encore 6e. 7, 8, 9, un truc comme ça. Mm-hmm. Et ils ont très, très mal vécu ce déménagement.
Mm-hmm.
Aujourd'hui encore, ils me disent, mais vous ne nous aviez pas préparé à ce déménagement. On était dans une jolie maison, on a été propulsés à Strasbourg. Les gens à l'époque, je vous remonte ça il y a longtemps, puisque j'ai 70 ans, hein, parlaient encore beaucoup, beaucoup alsacien, même à Strasbourg. Hein, les cartes de restaurant, nous les montrer en alsacien au lieu de nous les montrer en français d'abord. Crédit logement à ce moment-là. Donc, on a atterri dans un logement qui faisait quand même 230 mètres carrés, mais tout en marbre au sol. On n'a eu jamais aussi froid de notre vie. Et voilà comment ça a commencé, Strasbourg. Et la veille de la rentrée scolaire, nous avons enfin trouvé cet appartement. Nous avons emménagé. Et il y avait un parc en face. Et notre fils, il est allé jouer dans le parc avec ses 2 sœurs. Et il est revenu complètement amoché, griffonné, tout ça. Enfin, il avait chuté en vélo cross comme chutent les enfants de 7 ans, quoi, voilà.
Donc ça commençait mal, l'histoire.
ça a commencé à Strasbourg, voilà, ça a commencé très très mal. Et puis bon, mon mari avait une bonne situation, je ne dirais pas dans quel groupe, mais bon voilà, moi je ne travaillais pas. Et à l'âge de, quand chaque enfant a eu 10 ans, enfin quand l'aînée plutôt a eu 10 ans, elle allait rentrer en 6e, j'ai dit, ben maintenant je voudrais retravailler. Voilà, je me suis mise à retravailler et ça a été une catastrophe. Ils me l'ont toujours, toujours reproché. En fait, ils voulaient leur maman pour eux à la maison, puisque déjà mon mari faisait énormément de voyages. Et voilà, et de fil en aiguille, et ben, les choses se sont après mal passées.
Pourquoi est-ce que vous vouliez retravailler alors qu'il y avait déjà, au moment où il y avait déjà un déracinement et les choses étaient un petit peu instables, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à repartir dans une vie professionnelle?
Parce qu'à ce moment-là, j'avais presque 40 ans, un peu moins de 40 ans. Je m'étais dit, si je ne commence pas à retravailler maintenant, ce n'est pas 50 ans que je le ferai. Mmh. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé du tout au déracinement, je l'avoue, vraiment. Et j'ai pensé qu'à moi-même, en me disant, je veux une vie sociale. Parce que quand vous débarquez à Strasbourg, à cette époque-là, tout le monde parle alsacien autour de vous. En plus, j'ai été mariée avec un Anglais, donc il y avait déjà cette double culture. Je voulais retravailler. Voilà, la réponse, elle est là. D'accord. Et ça a été la plus grosse erreur que j'ai faite. Parce qu'ils étaient tellement habitués à ce qu'il y ait au moins un membre de la famille avec eux que, bon, voilà, ça roulait, quoi. On n'était pas bancal à l'époque, quoi. Et puis, voilà, les études se sont faites. L'aînée, elle était supérieurement intelligente. Elle a fait des très bonnes études. La deuxième a fait de mauvaises études. Elle est partie à l'âge de 18 ans aux États-Unis comme jeune fille au pair dès qu'elle a eu 18 ans. Le troisième, il était surdoué, mais il n'a rien fait en cours. Vous savez comment ils sont, les surdoués, bien souvent. Mmh. Et voilà. Donc, petit à petit, ça se dégradait. Tout doucement, ça se dégradait.
Mais est-ce qu'ils l'ont verbalisé à ce moment-là ou pas encore?
À ce moment-là, pas vraiment.
Non.
Il n'y a que celle du milieu qui a dit « Oh, je préférerais quand tu étais à la maison ». Mais ce n'était pas encore vraiment le grand truc. Hein. Mmh. Ça a été verbalisé plus tard.
Donc, c'est plutôt dans l'ambiance que vous analysez rétroactivement que vous comprenez qu'il y avait un mal-être, quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et alors que j'avais une structure qui gardait les enfants à la sortie de l'école, les goûter, les devoirs, le bar, tout, vous voyez, c'était parce que le job que j'avais pris, en fait, c'était un petit peu bête, mais je voulais jouer à la poupée, j'ai ouvert des boutiques de vêtements d'enfants. Mmh. Donc c'était quelque chose où je voulais pas nous vraiment, mais où j'étais quand même partie toute la journée, vous savez comment sont les commerces. Mmh. Et voilà, et je rentrais, j'étais trop contente, etc. Et en fait, on était peut-être un peu en décalage, mais je ne le voyais pas encore tout ça, vous voyez.
Mmh.
Et puis après, maintenant, à leur âge, l'aînée a fait 20 ans dans la City à Londres, elle était consultante en finance, elle a fait un burn-out, elle a tout arrêté. La deuxième, c'est elle qui a voulu partir aux États-Unis dès l'âge de 18 ans. On a fait passer le permis de conduire et tout. Pof, elle est partie aller aux États-Unis. Après, elle est rentrée. Là, il fallait bien qu'elle fasse quelque chose. Elle n'était pas du tout douée pour les études, celle-là. Donc, on lui a fait faire une école d'aide-soignante parce qu'un prof de français lui avait dit « Oh, il faut faire du social, mademoiselle. Vous êtes faite pour ça. » Donc, nous, idiots, comme on l'était à l'époque, social, école d'aide-soignante, voilà, c'était une courte formation, il y en avait pour un an, voilà, elle l'a fait, elle a réussi, donc voilà. Et je l'ai fait rentrer dans une clinique privée de Strasbourg, de nuit, où elle ne s'est pas bien intégrée, donc voilà, ça a déjà commencé, à partir de ce moment-là. Et le dernier, qui n'en foutait pas une rame, qui a eu son bac, mais en redoublant parce que j'étais suppliée, improviseur de lycée, de le reprendre pour qu'il passe son bac. Mmh. Il a fait une formation d'un BTS chez nous, dans notre entreprise. Et puis après, il est parti en Angleterre. Et après, il est revenu. Et puis voilà, sa carrière a commencé. Il a eu de la chance. Et donc, l'aîné, comme je vous dis, était déjà partie, elle, pour faire dans la City à Londres, là. Voilà. Et petit à petit, l'aîné a fait son chemin pendant 20 ans. Très, très bien, très, très bon job. Jamais mis un centime de côté. Comme elle dit, elle a fait 3 fois le tour du monde dans tous les sens. OK, pas un centime de côté. Et elle a 45 ans aujourd'hui. Le deuxième, bon, c'est celui le plus assidu. Il est dans la même boîte depuis toujours. Et il grimpe les échelons, ça va. Et la deuxième, c'est la fille. La deuxième, c'est la fille qui est bipolaire. et qui a eu d'énormes problèmes psychologiques, etc.
Quand est-ce que ça a été diagnostiqué, cette bipolarité ? À quel âge ?
Ben, déjà à l'âge de 15 ans, la première fois. À l'âge de 15 ans, nos voisins, qui étaient tous les deux médecins, ophtalmo et pédiatres, nous ont dit, il faut emmener votre fille voir tel médecin à Strasbourg qui s'occupe des ados, c'est un psychiatre, il va résoudre le problème. Donc, mon mari, ma petite et moi-même, y sommes allés, elle avait à l'époque 15 ans, mais je ne veux pas dire son nom, et il nous a fait rentrer dans la salle d'attente, il a pris ma fille, au bout de 5 minutes, il est revenu, il a dit, écoutez, votre fille est très bien élevée, très polie, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi, voilà, elle m'a dit au revoir, elle est partie. Donc vous n'êtes plus que tous les deux, et il va falloir qu'on tire la pelote de laine par un autre bout. Et donc je vous propose, madame ou monsieur, ou tous les deux, de faire un travail pour voir un peu ce qu'il en est. Mmh. Et mon mari, tout de suite, ma femme va très bien faire ça. Ah. Donc il m'avait désigné comme la personne tirant le bout de fil. Ok, donc j'y suis allée pendant 3 ans. J'y allais à l'époque 2 à 3 fois par semaine.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui.
C'est un gros travail, ça.
Oui, c'est-à-dire que ça a commencé par des entretiens qui étaient non payants, qui étaient remboursés par la sécurité sociale. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, bah, maintenant, on va passer à autre chose. Donc ça va être, vous allez payer vos séances. Et donc, c'était 200 francs la séance, je vous rappelle. Et j'y allais 2 à 3 fois par semaine. Et puis au bout de 3 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis partie en vacances avec la famille et je suis rentrée, je lui ai téléphoné, j'ai dit « j'ai plus besoin de vous ». Voilà comment ça s'est arrêté. Mm-hmm. Donc je n'ai pas vraiment eu de réponse jusqu'au bout parce que c'était, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, vous voyez, il y a des années, mais il ne vous parlait pas, simplement il vous écoutait et à la fin de l'heure ou des 3 quarts d'heure, je ne sais plus, il vous laissait sur une phrase. Sur une interrogation.
Oui.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. C'est un grand classique dans cette manière de travailler. Il ouvre juste une porte et c'est à vous de voir ce qu'il y a derrière.
Voilà. Et donc, vous y réfléchissez et après, vous revenez avec, soi-disant, la réponse ou pas la réponse. Mmh. Mais moi, je ne pouvais plus attendre. De jour en jour, je voulais le voir. Ce n'était pas possible. C'était trop coûteux. Donc, de 2 séances, je suis passée à 3. Après 3, j'ai dit, je ne peux pas aller plus souvent, quoi. Et ça me faisait un bien fou, j'ai appris plein de choses sur moi-même, etc. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce sont les enfants. Ils ne vont pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. L'aîné a fait un burn-out.
Il y a combien de temps ?
7 ans. Elle ne s'est jamais remise à un travail, jamais. Elle n'a jamais retravaillé.
Toujours pas aujourd'hui. À quoi ressemble sa vie alors ?
Sa vie ressemble à quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, qui la nourrit, qui la loge, qui lui donne de l'argent. Elle essaie toutes les choses possibles et imaginables. Elle sait faire des gâteaux, elle s'est mise dans l'entreprise de gâteaux, elle sait faire ci, elle sait faire là. Elle a pris un chien, un gros chien, elle sort des arrêts avec son gros chien. Voilà, c'est ça. Elle lit beaucoup, excusez-moi de dire ça, c'est pas très humble, mais voilà, elle a une connaissance pas possible. Elle se cultive tout le temps, elle se cultive, voilà. La deuxième, elle est rentrée bien sûr des États-Unis. Entre-temps, il y a eu le Covid, là. Eh bien, du jour au lendemain, elle est partie de la région où nous habitons dans le Midi à Garches. Le lendemain, elle était à Garches et elle a commencé 2 mois et demi pour soigner le Covid, alors qu'elle était moyennement équilibrée déjà. Et ça lui a fait du bien. Et grâce à ce job, elle a une lettre de recommandation. Elle a pu recommencer ici, dans le Sud, un poste intéressant aussi, mais très, comment vous dire, avec des enfants qui se battent, qui sont autistes et aussi handicapés psychologiques et comment dire,
moteur et physique. Ouais.
Moteur et physique. Voilà.
Moteur et mental, oui.
Moteur et mental. Elle est dans un grand hôpital du Sud. Je crois qu'il n'y a que cet hôpital d'ailleurs dans le Sud qui soigne ça. Il y avait d'ailleurs une journaliste de télévision qui avait mis son enfant là-bas.
Tout à fait,
là-bas.
Je vois que c'était Églantine Étayer, je crois.
Voilà, je ne dirais pas le nom de l'hôpital, mais voilà.
Oui, là où elle est connue. Oui. Elle en a beaucoup parlé. Ouais. Voilà, oui, les cas sont très très lourds là-bas. Ouais.
Exactement, très très lourds pour un enfant qui a été bipolaire, qui a été soigné plusieurs fois. le dernier truc, c'est 1 an et demi, 2 jours dans un hôpital psychiatrique, etc. C'était très dur. Bon, cette histoire de Covid, ça lui a fait, comment vous dire, une renaissance. Mmh. Elle s'est sentie tout d'un coup capable de servir aux autres.
À sa place.
Et à sa place, voilà. Et après, bon, elle est revenue parce que ça faisait 2 mois et demi qu'elle était là-bas et qu'elle avait un gros chien et tout ça et que les journées étant tellement chaudes, il fallait rentrer dans le midi pour le chien, pour tout le monde. Elle avait laissé sa fille, elle a une fille, elle, qui était en phase de faire le bac. Le bac n'a pas eu lieu, donc vous le savez. Et elle a eu avec mention bien d'ailleurs et elle intègre, comment ça s'appelle, l'université prodigieuse de Paris, là.
Ah, il y en a plusieurs, laquelle ?
Non, la grande, la plus grande, la Sorbonne, voilà. Ah. Elle intègre la Sorbonne. Et ça n'a jamais été son choix d'ailleurs, c'est la prof lui a mis un des choix, la Sorbonne, et elle a été prise à la Sorbonne. Et comme cette petite, elle n'est pas très suivie parce que sa maman, elle est seule avec elle, son papa, il a une tumeur au cerveau, et c'est un prof, mais il a une tumeur au cerveau, et il est à Strasbourg, ils sont séparés depuis l'âge qu'elle a 4 ans, depuis qu'elle a 4 ans. Donc, si tu veux, c'est une petite qui, si vous voulez, c'est une petite qui s'est fait toute seule, quoi. Mmh. Avec son grand-père, quand il était là, qui l'a beaucoup aidé, parce que c'était aussi un homme très, très extraordinaire. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, OK, elle a confirmé que la Sorbonne, c'était bon, qu'elle avait eu ça. Elle n'a pas de logement à Paris, toute seule. Elle a 17 ans, elle est très jeune. Hein, avec mention bien, pas de logement à Paris, il faut qu'elle y rentre pour le 21 septembre. Alors, par tous les moyens, pas par tous les moyens, parce que Julia n'a pas, excusez-moi, j'ai dit son nom, ne peut pas suivre tout ça, ne peut pas se renseigner auprès de
vous me perdez un petit peu en route, là, Michel. Quel est votre souci aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Mon souci, d'abord, je voulais vous brosser un peu le tableau des trois, et mon souci, c'est que aujourd'hui, ma fille, donc la deuxième, qui a une petite fille, qui va rentrer à la Sorbonne, qui est arrivée toujours très, très énervée, c'est ça qui est malade, n'est-ce pas ?
Ben
malgré
oui,
tous les efforts possibles imaginables, elle arrive, sa voiture se plante sur l'autoroute. Elle arrive, elle téléphone à la Massif. La Massif lui dit, il faut qu'elle soit remorquée. Elle rentre quand même jusqu'à chez moi, là, dans le Haut-Var. La Massif, elle est appelée à midi, à 5 heures, ils sont venus chercher la voiture, la rapporter au garage qui était fermé, elle sera prise en charge que demain. Voilà, chaque fois que ma fille vient me voir, il y a un problème. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer tous les problèmes de la Terre. C'est la voiture, c'est ci, c'est là. Après, mon fils qui est là en vacances tout seul, parce qu'il s'est séparé pendant le Covid de sa compagne, eh bien, lui, voilà, je ne vous dis pas ce qu'il fait, mais enfin, il passe son temps à rien faire. Et la grande qui est à Londres, là, elle, je l'appelle et puis elle me donne tous ses conseils. Enfin, il n'y en a aucun des trois qui est là pour moi, quoi. Aucun. Et je suis triste, très, très triste.
Qu'est-ce que vous entendez par « elle me donne tous ses conseils » ?
Parce que c'est l'aînée, c'est la plus intelligente de toutes. Elle a un recul sur tous, sur les trois enfants, sur la vie familiale, etc. Et c'est vrai que avec ses mots, elle sait me dire bon, bah, écoute, un tel, c'est ci, un tel, c'est ça. Et elle essaye de leur parler ou quoi, mais ça passe plus, quoi, vraiment. Hein.
Alors pourquoi vous me dites qu'aucun des trois n'est là pour moi, puisque vous me dites à l'inverse qu'elle, elle vous écoute et qu'elle vous conseille?
Oui, bon, ok. Excusez-moi. Donc il y en a quand même une qui est là. Mais bon, elle est à Londres. Je ne l'appelle pas toutes les 5 minutes, dans le sens où, bon, je ne veux pas la gonfler non plus. Elle a aussi ses soucis. Vous comprenez?
Ben oui, c'est normal, bien sûr.
Voilà. Et les deux autres, le fils qui s'est séparé pendant le coronavirus, donc lui, il est là chez moi, il vient de prendre un nouvel appartement, il est quand même tout seul, mais il a déjà retrouvé une copine, bon, je ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. Et Julia qui est avec sa petite, et il faut qu'elle se démêle tout de suite avec, toute seule avec sa petite, et c'est très, très compliqué. Moi, je suis tout... Alors, j'ai dû prêter ma voiture qui est neuve, je me suis acheté une voiture neuve parce que j'ai des soucis de santé, donc automatique. J'ai dû la prêter. J'étais pas fortement en joie parce que je me suis dit qu'est-ce qui va arriver avec cette nouvelle voiture, etc. J'ai pleuré, j'ai pris des cachets. Je n'arrive plus à faire face. Voilà. Je suis trop fatiguée. J'arrive plus à faire face à tout.
Ce qui est curieux, c'est que quand vous parlez de... Redonnez-moi leur âge aux trois.
Alors, le dernier a 43, c'est le garçon. Mmh. 43. 44 et 45.
Oui, c'est ça. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous parlez d'adolescents qui sont encore sous votre coupe.
Mais c'est même pas qu'ils sont sous ma coupe, c'est que ce sont des adolescents. Alors, sous ma coupe, c'est un bien grand mot, dans le sens où moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais comme ils font encore des tas de trucs que je n'aime pas, ben, je ne peux pas m'empêcher de le dire quand même.
Est-ce que ça change quelque chose que vous le disiez ?
Ben non, justement. Oui. Ça ne change rien. Au contraire, je trouve qu'ils prennent encore plus de prérogatives, comme prendre ma voiture qui a 15 000 km, qui est neuve, elle a 5 000 km ma voiture, puisque le garage ne pouvait pas la faire tout de suite. Et quand j'ai dit « fais attention, fais ci, fais là », ils savent tout. Alors que vous savez très bien que toutes les voitures, maintenant, elles sont tellement sophistiquées qu'il faut quand même faire une petite mise en main, quoi. Et en fait, honnêtement, c'est Sabine, hein ?
Sabine, oui.
Votre prénom.
Oui, oui.
Je ne sais pas si le problème il vient de moi ou d'eux, quoi.
Je vous propose qu'on marque une courte pause et on continue cette conversation, si vous le permettez.
Merci beaucoup.
À tout de suite, Michel. Ah, si j'ouvre le micro, ça marche mieux. Michel, vous êtes là ?
Je suis là, bien sûr.
Oui. Vous savez, la question n'est pas de à qui est la faute, parce que personne n'est coupable dans cette histoire. Il ne s'agit pas de culpabiliser l'un ou l'autre. Simplement, quelquefois dans la vie... C'est plus intéressant de ne plus chercher à avoir raison, mais de chercher à être en paix.
Je sais, oui. Je sais, mais c'est dur.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement impliquée dans leur vie à chacun comme ça ?
Ben parce que déjà, j'ai eu un accident quand j'avais 41 ans, où j'ai eu des multiples fractures, j'ai environ une dizaine de fractures d'un côté, donc je ne suis pas à l'aise physiquement. Mmh. Et d'autre part, ça fait environ 6 mois à 1 an qu'on est en train de me trouver des problèmes aux yeux. Je vois moins bien. Ça s'appelle une DMLA sèche. Non pas la DMLA classique, mais sèche. C'est des trous dans les rétines. C'est très, très, très... Comment dire ? Ça va vers la cécité. D'accord ?
Mmh.
Et il me semble bien qu'il y avait d'ailleurs une animatrice de télévision, je dirais pas sur quelle chaîne, qui a ce trouble, qui en avait un petit peu parlé.
J'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps aussi, oui.
Et c'est tellement dégénératif. Donc je marche qu'avec deux cannes, et maintenant j'y vois plus. J'ai environ 4 paires de lunettes, il n'y en a aucune qui me fait vraiment de l'effet. Et parce que ce sont des trous, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun traitement pour ça, d'accord ? Alors ça, se rajoutant à tous ces problèmes d'enfants, mon mari qui est parti, qui lui avait des épaules tellement lourdes, tellement sur lesquelles je pouvais m'appuyer, me fait que je me retrouve seule, complètement seule. Et ils sont tous aux quatre coins de France. Hein. Un est à Lille, l'autre à Londres, l'autre dans le Midi. Ouais, voilà.
Et moi, ce que je comprends peut-être là dans ce que vous me dites, c'est que peut-être on peut envisager que le souci, c'est pas tellement le comportement des uns ou des autres, c'est que vous vous sentez seule et vous avez peur ?
J'ai peur, oui.
Ouais. Il vous manque cette épaule-là et c'est comme si vous alliez la chercher chez vos enfants et qu'elle n'y était pas.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, oui.
Mm.
Et pourtant, ce n'était pas l'amour absolu. Vous savez comment c'est dans un couple. On a été mariés depuis 50 ans, hein, donc... Mais c'était un homme sur lequel je pouvais m'appuyer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais jamais à prendre une décision toute seule, il m'aidait, quoi. Vous comprenez ?
Bien sûr. Et est-ce que, au lieu de vous montrer, je dirais peut-être forte devant vos enfants, d'être un peu dans l'accusation, dans le jugement, dans la culpabilité, est-ce que vous leur avez montré cette faiblesse ? Est-ce que simplement vous avez ouvert votre cœur pour leur dire j'ai peur et je me sens pas bien ?
Mais oui, ils le savent. Ils le savent parce qu'ils me voient. Mais ils ne sont pas compatissants.
Quand vous me dites « ils le savent », est-ce que vous l'avez vraiment dit ?
Je l'ai dit, j'ai dit « vous voyez comment je suis ? J'ai une très grande maison ici. » J'ai dit « regardez, je suis la plupart du temps dans ma chambre, voilà, je n'ai pas beaucoup de salon, je n'ai pas l'étage, rien du tout. Je ne suis pas bien et tout ça. Oui, mais d'accord, il faut mettre des choses en place pour toi. Bah, » alors bien sûr, moi je suis déjà aidée, hein, à domicile, etc., etc. C'est pas ça, mais vous pouvez pas partager certaines choses avec quand même des étrangers.
Vous avez la chance quand même d'avoir quelqu'un qui vous aide au quotidien, c'est ça?
Oui, ou à peu près, oui. Si je voulais au quotidien, le fait deux, trois fois par semaine. Et son mari, en plus, il m'aide aussi dans mes papiers, parce que la vision, c'est un grave problème. Vous n'arrivez plus à voir même les montants qu'on vous demande sur un chèque ou n'importe quoi. Et bien que mon médecin m'ait dit, vous savez, madame, le pire, c'est l'audition, c'est pas la vision. Bon, c'est pas pour ça que ça m'a fait aller mieux.
Ça, c'est son point de vue à lui. C'est pas...
Voilà.
C'est curieux que ça, comme...
Oui. Enfin bon. Et je ne sais plus comment tourner les choses, parce que vraiment, j'ai l'impression, bon, je vous dis, en tous les cas, celle qui a la petite fille de 17 ans qui va partir à Paris, là. Alors moi, dès le départ, j'avais dit, je paierai ses études, des choses que je vais faire, il n'y a pas de souci. Mais ils ne me tiennent même pas au courant comment ça se passe, où elle en est, de son logement à Paris, qu'elle ne trouve pas, que si, que là. Moi, j'ai des connaissances à Paris, j'ai essayé de les mettre en rapport, mais ils y vont le dernier jour, au moment de repartir dans le midi. Je veux dire, des rapports, c'est un long chemin, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut vous apporter de l'aide, vous comprenez? Enfin, je pense, moi.
Est-ce que vous vous sentiriez pas mieux si vous lâchiez un peu prise?
J'ai essayé, mais regardez, ça me rattrape, là, maintenant, l'histoire de la voiture. Puis je lui dis, tu me fais ta voiture, et puis je ne pouvais pas dire non.
Et pourquoi? Si ça ne vous convient pas, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire non?
Mais comment elle va travailler, alors? Elle a sa voiture immobilisée ici, elle travaille à 75 km.
Redites-moi quel âge elle a?
Elle a 47 ans.
Voilà.
Ah oui, mais ils comptent toujours tous sur moi.
Oui, mais pourquoi? Parce que vous laissez faire aussi. Une fois de plus, si ça vous convient, c'est OK, mais si ça ne vous convient pas, laissez-les grandir aussi. Laissez-les être responsables de ce qui se passe dans leur vie. Comme vous me dites, à chaque fois qu'elle vient, il y a un problème. Ben oui, mais le problème, c'est maman qui le résout. C'est facile.
Oui, mais comment m'arrêter de faire ça?
En vous occupant de vous, parce que je crois que c'est ce que votre corps est en train de vous demander.
Oui, mais ce n'est pas possible. De toute façon, je ne vais pas tenir longtemps, parce que si la vision s'en va complètement, je ne tiendrai pas. Déjà avec tous les accidents que j'ai eus physiques, la vision, c'est trop grave. La vision, ça veut dire que je ne peux plus conduire. Je suis dans un village, c'est un très beau village du sud, je suis quand même dans un village. Je joue au bridge, bon, j'ai des amis qui jouent au bridge avec moi et tout ça. Mais je ne suis pas du style à demander tous les 4 matins, il faut m'emmener là, vous comprenez?
Et vous savez, on a beaucoup de conversations sur cette antenne avec des gens qui ont perdu la vue et qui nous expliquent qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a des centres qui vont vous apprendre à percevoir les choses autrement, qui vont vous aider à vivre comme ça.
Très difficile.
Je sais que c'est difficile.
Je vois pas comment on peut y arriver. Je vois pas.
Ah bah, y a beaucoup de gens qui sont passés par là et qui nous racontent comment ils y sont arrivés, justement. Comment la vie change, bien sûr, c'est un combat. Mais c'est un combat qu'on peut gagner.
Mais mes 3 enfants que j'adorais, que j'adore encore, en plus, ils ont la bisbille entre 3, parce qu'ils sont jaloux des 3. C'est-à-dire que là, mon fils est venu, j'ai fait plein d'achats, parce que bon, il avait besoin et tout ça. Et il dit, oh, il ne faut pas le dire à un tel étant sa sœur. Et un tel me dit, ah non, ne lui dis pas que tu m'as fait un virement. Vous voyez, ce n'est pas translucide, ce n'est pas clair, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est eux, ils sont jaloux entre eux. Je ne comprends pas cette jalousie. Il y en a pour tout le monde.
Ça, je ne sais pas. C'est peut-être lié à des choses du passé, mais vous n'avez pas envie de les laisser vivre leur vie un petit peu?
De les laisser quoi?
Vivre leur vie.
Bah, dans ces cas-là, alors ils ne viennent pas me voir, puis c'est tout. Hein. Bon, moi, je n'empiète pas sur leur vie, dans le sens où je ne vais pas dans leur vie et dans leur ville à eux. Vous comprenez? Je suis loin. Je ne voyage plus. Donc, je ne les embête pas. Je ne les embête pas. Et quand vous voyez ma fille qui prend ma voiture, qui dit « je sais !» J'ai dit « Écoute, toutes les voitures sont différentes, elle est automatique, je voudrais te montrer 2-3 choses, gnagnagna. Mais je sais !» Voilà. Et vous, quand vous entendez ça, vous savez, vous êtes moins que rien. Vous comprenez ça?
Une fois de plus, Michel, n'acceptez pas ce qui ne vous convient pas.
Non.
Je pense que le souci, il est ailleurs qu'avec vos enfants, là. Vous avez quand même une fille aînée avec qui ça se passe bien, qui vous écoute, qui est là pour vous.
Si on veut, oui.
Comment ça
si on veut, et puis pendant 3 mois, après, elle ne donnera plus signe de vie, de toute façon. Ça dépend de ses états d'âme, elle aussi. Hein. Oui, quand ma maman est décédée, je leur ai donné à chacun un peu d'argent. Bon, ok, c'est fini, c'est passé. Un petit remerciement de rien du tout, puis c'est tout, quoi. Et ça continue à demander, ça continue. Et moi, tout ce que j'ai envie, je vous assure, maintenant, j'ai juste envie de me suicider. Qu'ils prennent tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont, je m'en fous, mais que je ne sois plus là, quoi. Parce que si mon mari était là, il m'aurait aidé avec ses grands adultes, quoi, à faire mieux que ce que je fais, moi. Je ne fais pas bien tout ce que je fais, là.
Michel, est-ce que vous avez fait le deuil de votre mari ?
Comment ?
Est-ce que vous avez fait le deuil de votre mari ?
Non.
Non, eh bien, c'est ça. Eh oui.
Ça fait 2 ans et demi, mais non, j'ai pas fait le deuil. Parce que, si vous voulez, j'ai toujours son mur dans la maison, avec ses photos, tous les mardis, c'est le jour du marché ici. Tous les mardis, je vais chercher des fleurs. Bon, pour toute la maison, j'adore les fleurs. Et je lui mets toujours un bouquet, je lui parle et tout. Et j'ai même l'impression que quand je lui parle ou quoi, j'ai l'impression que quelque part il m'aide dans le sens. Je sais, vous allez dire, c'est trop bête ce qu'elle vous raconte, cette dame. Mais, par exemple, je sais pas, je perds une paire de lunettes, je la cherche partout. Puis tout d'un coup, je la retrouve, tu vois, vous voyez. Puis je dis, c'est pas possible, tu m'as aidé. Alors que c'était pas un couple fusionnel, hein, on s'est beaucoup, comment dire, disputé aussi. Et les enfants nous le reprochent. L'aînée, elle me dit, pourquoi vous n'avez pas divorcé ? Je dis, mais comment vous dis-tu que je divorce ? J'avais 3 enfants. Bon, je dis carrément, ton père avait une très bonne situation, vous aidez très bien, il y avait le ski, il y avait le Med à droite, à gauche. Ils ont eu tout ce qu'il fallait, petit. Mais c'est comme si, quelque part, ils n'avaient pas eu assez d'amour, quoi. Et le fait que je me sois absolument, que j'ai voulu retravailler quand ils avaient 10 ans, ça a été le comble, quoi.
J'ai bien compris, mais ça, c'est autre chose. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est difficile pour vous, c'est ce deuil qui n'est pas fait, la souffrance. Le nœud de la souffrance, il est là, j'ai l'impression, en ce moment. C'est que vous vous sentez seule, vous vous sentez de plus en plus dépendante physiquement. Et il y a ce deuil qui n'a pas été fait.
Mais comment le faire ?
Vous voyez une thérapeute ?
Oh, plusieurs, j'en ai vu plein de thérapeutes. Depuis que Julien a 15 ans...
Non, mais là, je parle depuis la mort de votre mari.
Depuis la mort de mes maris, oui, mais tout ça pour vous dire que j'ai jamais cessé. Et depuis la mort de mon mari, j'ai pris aussi un autre thérapeute qu'on m'a conseillé. Mmh. Et là, je suis restée fâchée parce que pendant le coronavirus, elle ne m'a pas envoyé un coup de fil. Alors que je vois un autre thérapeute qui a pris de mes nouvelles chaque semaine. Et je me dis, celui qui n'a pas pris de mes nouvelles, à qui je me confiais beaucoup et tout... c'était privé, hein, donc si vous voulez, je réglais moi-même, c'était pas la sécurité du tout. Elle n'a pas pris la peine une fois de m'appeler, quoi. Eh ben, moi, je trouve que ça ne se fait pas.
Laissez tomber, restez avec celui qui vous convient.
Non, mais qu'est-ce que vous en pensez qu'un thérapeute ne vous appelle même pas pendant tout ce confinement ?
Je ne sais pas, je n'ai pas sa version à elle, je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté. Mais peut-être elle a vécu aussi des choses compliquées, j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger ça. Tout ce que je vois, c'est que si...
Je voulais vous demander, vous avez peut-être des patients en dehors de cette libre antenne. Mmh. Est-ce que vous avez suivi vos patients ?
Oui, mais ce n'est pas la question. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette dame-là.
Alors moi, si vous voulez, ça va couper les gens, quoi. Parce qu'en plus, elle avait entamé un gros travail.
Oh, je vous entends mal, Michel.
Pardon ?
Allô ? Vous avez mis le haut-parleur ?
Non. Elle avait entamé un gros travail avec moi. Et elle m'avait dit, je vous donnerai les résultats de ce travail dès qu'il est terminé. Mmh. Et j'y restais une heure à chaque fois, et avec plein de questions et tout. Et donc, j'ai d'ailleurs pas fini, puisque je ne suis pas retournée. Et que, voilà. Alors, en fait, c'était aussi loin de mon domicile. La route, elle tourne. J'y vois de moins en moins, je ne peux pas me faire conduire. Donc, tout ça, c'est compliqué, quoi, vous voyez. Et alors, l'autre que je la vois à l'hôpital, mais je la vois moins souvent. Elle est toujours à l'écoute. Oui.
Bon, ben voilà, vous avez au moins quelqu'un qui est à l'écoute, mais est-ce que vous travaillez sur ce deuil-là qui est en train de...
Non,
Eh ben oui, mais alors...
Mais vous parliez avant de hypnose ou je ne sais pas quoi. Vous ne pensez pas peut-être que je devrais faire ça ?
Vous pouvez essayer si ça vous convient. On peut travailler le deuil aussi sous hypnose, mais je pense que ça serait complémentaire pour vous. Ça serait bien de faire une thérapie plus classique, de continuer, mais de travailler vraiment sur ce qui fait mal en ce moment. Et il me semble que ce qui vous fait mal, c'est ça, en premier lieu.
Ouais. Parce que, vous savez, je vais encore vous dire un truc. Vous savez, ma fille, l'aînée qui est tellement brillante, là, je lui ai dit, écoute, il faut que tu écrives un livre sur notre famille. Ça va en passer par là. Et je lui ai dit le nom du titre. Enfin, je lui ai dit, tu pourrais l'appeler La bancale et l'orphelin. Pourquoi la bancale? Parce que mon père biologique, je ne l'ai jamais connu. Et l'orphelin, parce que mon mari a perdu sa maman à l'âge de 7 ans et il s'en est jamais remis. Donc l'un comme l'autre, on a un passé très, très, très délicat, oui, qui ont fait qu'on n'a pas su aimer nos enfants comme on aurait dû les aimer.
Vous les avez aimés à votre manière, vous leur avez apporté tout ce que vous pouviez leur apporter. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Vous savez, ce qui compte, c'est l'intention. Vous n'aviez pas une intention négative à l'époque, loin de là.
Oui, mais eux, ils disent que non, qu'on n'a pas apporté que du positif. Eux, ils disent qu'on était trop embringués dans nos histoires de couple. Enfin,
c'est possible. Vous connaissez des parents parfaits, vous?
Non.
Surtout aux yeux des enfants?
Mais il y en a qui réussissent quand même beaucoup mieux. Moi, j'ai des amis où, voilà, les parents et les enfants, ils se voient bien, il y a des repas de famille. D'abord, il y a des familles que les miens, ils n'ont pas créé de famille.
Alors aucun attention, Michel, la pire des choses au monde, c'est de se comparer aux autres. C'est la porte ouverte au malheur, ça. Il y a toujours des gens plus heureux, plus beaux, plus riches, plus intelligents, qui ont plus. Il y en a aussi beaucoup qui ont moins. Il y a quand même eu... Je pense qu'il y a un gros fond de dépression chez vous en ce moment. Est-ce que vous êtes traité pour ça?
Je prends un petit truc, mais bon.
Ouais, le petit truc, il n'a pas l'air très efficace.
Mais madame, je vais vous dire, j'ouvre les yeux, moi, vous savez. Je joue au bridge, je fais partie de club de bridge et tout ça. Et quand j'entends que les gens, allez, un tel vient passer, oh oui, on a passé une super journée, on avait les enfants, on avait ci, on avait là. Ben moi, j'ai jamais rien à dire, parce que soit ils sont trop loin, ils ne sont pas là. Et si par hasard, ils sont là, eh bien, ça ne passe pas bien, quoi. Et par exemple, à midi, vous voyez, j'avais fait un repas. J'ai demandé à ce que tout le monde se mette à table. J'ai proposé à quelle heure ils voulaient se mettre à table. Je n'ai pas imposé. Hein. Et pas un. Et si mon fils a mangé quand même avec moi. Ma petite fille, elle a grignoté ce qu'elle trouvait dans le frigo. Il y en avait plein d'ailleurs. Mon autre fille, la deuxième qui est malade, elle a aussi traficoté dans le frigo. Et puis elle a pris ce qu'elle a voulu. Si vous voulez, depuis que mon mari n'est plus là, avant, il ne se serait pas permis de faire ça. On vient en famille voir maman, on respecte le repas qu'elle fait, quoi. Surtout que c'est toujours des bonnes choses. C'est pas... Moi, je ne vais pas picorer dans le frigo et chercher quelque chose, voyez.
Après, honnêtement, Michel, avec un peu de recul, ça ne me paraît pas très important, ça. C'est là où je vous dis, par moment, il vaut mieux arrêter de vouloir avoir raison et essayer d'être en paix. Mais là, je pense que vous voyez... avec ce fond de dépression, c'est comme si vous voyez systématiquement ce qui ne va pas, sans jamais voir ce qui va.
Peut-être.
Vous mettez un filtre et c'est la souffrance qui est en vous qui fait ça, qui fait que vous focalisez sur tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui ne va pas, et vous n'arrivez pas à voir que dans ce que vous me racontez, il y a aussi de jolies choses.
Mais quelles sont les jolies choses?
Votre fille aînée qui vous écoute, vos enfants qui viennent quand même vous voir. Le dialogue n'est pas rompu. Des amis, vous me dites, vous êtes dans un club de bridge, vous êtes à l'abri financièrement, vous êtes dans un appartement ou une maison, vous avez quelqu'un qui vient vous aider, vous avez un thérapeute qui vous écoute. Tout ça sont des choses qui sont positives et c'est comme si vous passiez dessus sans les voir. Parce que quand on va mal, et c'est tout à fait humain, et on est focalisé sur ce qui ne va pas et on en oublie le reste.
C'est vrai, vous avez raison là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est plus fort que moi. Et pourtant, je suis quelqu'un de volontaire et j'essaie beaucoup d'aider les gens. En plus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me renferme sur moi-même. Hein. Mais quand ça touche à ma propre famille, je suis désemparée, quoi. Je suis désemparée, je ne trouve pas les bons mots, je ne trouve pas les failles, je ne trouve pas... Voilà.
Oui, et je crois qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a cette culpabilité et puis cette peur qui sont là. Et on dirait que ce sont des, comme des, L'image que j'ai, c'est comme si vous preniez les pieds dedans tous les jours. C'est ça qui vous fait vous casser la figure. La peur d'un côté, le sentiment de culpabilité de l'autre.
Ouais.
Et vous avez du mal à retrouver un équilibre avec tout ça. Et ça, ça me paraît important de le travailler. Il y a deux axes, je pense, au travail. D'abord, le deuil de votre mari, arriver à un apaisement. Et puis, cette culpabilité de ce qui s'est passé dans le passé avec vos enfants.
Parce qu'il y a bien des mères qui retravaillent à un moment ou à un autre, non ?
Bien sûr, mais c'est jamais simple dans des familles. Les enfants reprochent très souvent ça aux parents. Ils ont du mal à comprendre. Est-ce que vous en avez parlé ouvertement avec eux plus tard de ça ? Est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi vous avez fait ce choix-là à l'époque ? Pourquoi vous vous sentez un peu coupable de l'avoir fait ? Est-ce que ça a été dit, tout ça ?
Je leur en ai parlé quand je voulais reprendre. Et tous, ils m'ont rigolé au nez en disant « Ah, tu veux jouer à la poupée ?» Bon, voilà.
Oui, non, mais ils étaient petits à cette époque-là.
Attendez, l'aîné avait 10 ans, genre 10, non, mais... 8 et 7.
Non, mais ma question était, est-ce que vous avez parlé de ça à l'âge adulte avec eux ? Est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça sur le tapis ?
Bien sûr, on en a reparlé. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas tous les trois d'accord. Il y en a qui disaient « Mais non, si maman avait envie de s'épanouir, il fallait qu'elle le fasse. »
Ben voilà.
Et puis les autres disaient « Non, il ne fallait pas. Moi, ça m'a complètement troublée, etc. etc. » Donc, tous les trois n'étaient pas sur la même longueur d'onde, déjà. Et voilà. Et en plus de ça, moi, là où je m'en veux, c'est que j'ai mis tous les garde-fous pour qu'ils soient bien à l'abri, qu'on leur fasse faire bien les devoirs, etc. Après, j'ai appris que c'est la fille qui les gardait, qui faisait les devoirs. Enfin bon, tout comme ça. Enfin, parce que je ne vais pas prendre toute votre antenne pour ça, c'est ridicule.
Mais, non, Michel, mais si vous en avez besoin, je suis là pour ça, il n'y a aucun souci.
C'est juste ma grande détresse.
Aller remuer tout ça, ça ne va pas changer grand-chose et ça ne va pas vous aider.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Vraiment travailler. D'abord, peut-être vous faire prescrire des antidépresseurs un peu plus puissants. Parce qu'en ce moment, avez un filtre noir devant les yeux et vous voyez tout de manière sombre.
Je prends du Prozac une fois par jour.
Oui, mais le dosage, visiblement, n'est pas très efficace sur vous.
D'accord.
Le dosage ou la molécule, j'en sais rien, il faudrait voir ça avec votre médecin.
Oui, il faudra que j'en reparle avec lui. Alors.
J'ai l'impression que vous avez besoin d'un soutien là, pour arriver à surmonter la vague.
Oui.
Vous apaisez.
Et puis, vous savez,
oui.
Le fait que sur trois enfants, il n'y en a aucun qui a fait une famille, quoi. Moi, je me voyais bien avec un garçon, une fille, des petits-enfants, plein à la maison est grande. La fille, l'aînée, là, qui est un peu surdouée, ne l'a pas fait. Le fils, il ne l'a pas fait. Il a vécu avec des gens proches à caisser. La fille, la dernière, elle a fait une petite fille qui a maintenant 17 ans, qui est rentrée à la Sorbonne, là, mais qui, elle, l'a fait comme ça, c'est tout, quoi. Pas de famille, rien.
Comment, Michel, je vais vous rappeler une règle de base. On ne fait pas les enfants pour soi.
Oui, mais sur trois.
Ce n'est pas une question de nombre. Vous pourriez en avoir fait 18. C'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent.
Ouais, bon, bah écoutez, c'est dommage. C'est dommage, je suis très triste. Je suis très triste. Je sais que... Quand ils vont être tous partis, je ne pourrais plus supporter cette vie qui ne m'apporte plus rien, quoi. Ils se moquent un peu de moi tous, quoi, vous voyez.
J'ai pas l'impression, sincèrement, Michel, j'ai l'impression que c'est vous qui voyez tout noir en ce moment, vraiment. Je pense que quand vous aurez réussi à prendre un peu de recul, quand vous serez fait aider, vous verrez les choses un peu différemment.
Mais je vous remercie en tous les cas.
C'est vraiment, vraiment important que vous preniez d'abord soin de vous. Lâchez l'affaire là, sur les enfants pour l'instant. Ce n'est pas le plus important. C'est vous qui êtes importante en ce moment.
Ouais.
Prendre soin de vous physiquement, prendre soin de vous moralement. Et trouver un apaisement qui vous permettra d'avoir un juste recul émotionnel par rapport à tout ça.
Ouais. Ok, je vous remercie, madame.
Hein ? Je vous embrasse, Michel.
Je vous remercie.